Et maintenant, place à Anne-Marie Aubin. On va vous écouter toujours avec beaucoup d'intérêt. Anne-Marie, ça va?
Oui, ça va bien.
Anne-Marie, vous êtes...
La voix d'une grippée, cependant.
Ah non!
Ah, c'est pas grave.
Bon.
C'est juste moins agréable à l'écoute.
Non, mais c'est quand même... Ça passe très, très bien, Anne-Marie. J'ai déjà entendu des voix encore plus... comment dire? Rauques et rauques gricheuses. En tout cas, alors Anne-Marie, ben c'est une belle activité à faire quand on est malade, alité, la lecture, lire dans son lit. Moi, je trouve que c'est tellement agréable.
Oui, et en silence.
Oui.
Pour garder sa voix.
Vous avez lu le plus récent roman d'Elsa Pépin.
Ouais, Le fil du vivant. Ça faisait longtemps que je voulais en parler parce qu'il a été finaliste au prix du gouverneur général. Et présentement, il est finaliste au prix littéraire des collégiens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants dans les cégeps qui le lisent présentement. Et comme j'ai longtemps participé à ce prix, je me suis dit, bon, je vais aller voir comment les jeunes peuvent peut-être apprécier ce livre-là. Alors, l'autrice, Elsa Pépin, je la connaissais de vue comme ça pour l'avoir rencontrée à quelques reprises. Elle est toute jeune, elle est née en 1978 à Montréal. Elle a étudié en littérature, mais on connaît surtout la journaliste et l'auteur et l'éditrice. Elle a publié dans le passé, Quand j'étais l'Amérique, un recueil de nouvelles chez XYZ qui s'est mérité le prix de la QPF et de l'ANEL, c'est-à-dire l'Association québécoise des profs de français et l'Association nationale des éditeurs de livres. Et elle a été présélectionnée au prix littéraire France-Québec pour ce titre-là. Plus tard, en 2016, elle a publié Les Sanguines chez Alto, un roman. Elle a aussi dirigé des collectifs auxquels elle a participé. L'un d'eux s'appelait Amour et libertinage par des trentenaires d'aujourd'hui chez 400 coups. Elle a co-dirigé avec Claudia Larochelle et puis elle a signé un texte aussi. Puis l'autre collectif qu'elle a dirigé, c'est Dans le ventre, histoire d'accouchement, auquel elle a participé également. Et tout ça me fait penser au contenu du fil du vivant qui finalement parle aussi d'amour et de maternité. Donc il y a quand même une thématique qui lui est propre et qui la touche même dans ce livre-là. Alors le fil du vivant, ben, c'est une dystopie dans le sens que c'est quelque chose qui n'existe pas, mais en même temps qui est tout près de nous parce que c'est une catastrophe climatique qui arrive sur le Québec et qui fait que les gens de Montréal, particulièrement qui vivent sur une île entourée d'eau, donc, sont inondés et doivent fuir. Alors, ceux qui sont les plus près du fleuve sont les premiers à quitter. Et dans cette histoire, tout commence alors avec l'héroïne qui s'appelle Iona, qui allait un tout petit bébé, là, un nourrisson, et qui a une autre petite fille, un peu plus vieille, qui a 3 ans. Et là, elle souffre un peu de cette maternité où elle se sent vraiment coupée, ses ailes coupées, parce que le bébé, il t'empêche de dormir, il t'empêche de faire ce que tu veux à l'heure que tu veux, c'est lui qui décide. Hein. Et elle dit, je la cite, « Le bonheur d'être mère que j'imaginais n'a rien à voir avec ma réalité. » Plus tard, elle dira, « Je ne peux pas aimer ce qui m'aliène dans le présent en pensant que ça me manquera un jour. » Elle ne vit pas très bien le moment présent parce qu'elle est un peu anxieuse, parce qu'à côté d'elle, son conjoint, Nils, lui, est tout en train d'organiser leur fuite, leur départ. Il vient d'une famille riche qui ont un domaine dans les Hautes-Laurentides, à Rivière-Rouge, et avec sa sœur Sophia, qui est déjà rendu là, ils veulent aller se terrer là, faire des provisions de nourriture, parce qu'ils voient bien qu'ils vont être obligés de quitter leur maison. Et aussi, ben, ils veulent se protéger des marées qui vont s'en aller tous vers le nord, des marées humaines. Alors, dans ce livre, il est question, évidemment, de maternité, parce que cette fille allait de son enfant, puis elle en parle beaucoup, de la famille, parce que, bon, c'est très important, c'est grâce à la famille qu'ils ont ce domaine, et qui peuvent aller se terrer ensemble là-bas. Il est aussi question de l'adolescence. Parce qu'elle, quand elle est coincée avec son bébé qu'elle doit allaiter, ben, elle se souvient de sa liberté d'adolescente et de ses expériences qu'elle a fait avec la drogue et de son amoureux de l'époque qui s'appelait Vassili. Et donc, ça alterne entre le réel, qui est la crise climatique, et le passé de, je sais pas, 20 ans à peu près, 15-20 ans, qui était très différent, où elle voyait aucune menace. Et même d'être enceinte et de porter un enfant et d'accoucher, c'est quelque chose qui est remis en question. À un moment donné, elle raconte qu'une collègue qui a 15 ans de moins, donc à peu près 20 ans, lui dit « Tu sais que les vagues de chaleur extrêmes et les pluies records sont dues à la déforestation et aux émissions de gaz carbonique qu'aucun gouvernement n'est prêt à ralentir? » Le nord de la planète va être submergé par les eaux pendant que le sud va mourir de soif. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas quoi? Mettre des enfants dans ce monde. L'empreinte carbone de chaque nouvelle vie aggrave la crise. Alors, Iona, elle écoute ça, puis elle se dit quand même, c'est étonnant que ces jeunes de 20 ans soient les nouveaux curés qui nous reprochent à nous, les femmes, d'enfanter. Et elle dit, s'il n'y a plus de mère, ben le fil est brisé. Alors, le fil du vivant, c'est bien sûr celui que la mère donne à son enfant, mais c'est aussi le fil de la vie, de la survie, que toute cette équipe-là va vivre pendant la crise, finalement. Parce que, je le sais pas, je crois qu'elle a écrit ça pendant la pandémie, mais il y a vraiment des liens avec la crise qu'on a connue, puis la crise du verglas, puis
les inondations.
Oui, les inondations. Alors elle dit, par exemple, à propos de ça, un peu plus loin, que le gouvernement du Québec va faire des points de presse et dire bon ben là, il y a 50% de la province qui est privée d'électricité, donc on reconnaît les points de presse du moment de la pandémie. Elle va se prendre une douche, puis elle dit, je ne sais pas si l'eau de la ville est infectée. Donc, il y a tout ça aussi, là, le danger de s'infecter. Et les pluies vont faire mourir tout ce qu'il y a comme végétation, mais vont faire pousser aussi des algues, des nouvelles plantes qu'on ne connaît pas. Et là, il faudra apprivoiser ça, parce qu'ils vont essayer de se nourrir de ce qu'ils trouvent aussi là-bas dans la forêt, des champignons, des petites plantes. Ils vont même manger des insectes, parce qu'à un moment donné, ils vont manquer de nourriture. Donc, c'est vraiment comme si, effectivement, une catastrophe arrivait. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, on voit les tensions qui se tressent entre les membres, parce qu'il y a son mari, ses enfants, mais il y a aussi sa belle-sœur, son beau-frère et des enfants. Puis elle amène sa meilleure amie avec son adolescent. Puis là, ben évidemment, ces gens-là qui sont aisés puis qui ont toujours eu la facilité, ben ils sont beaucoup plus angoissés que elle et son amie qui ont vécu une adolescence beaucoup plus bohème, je dirais, et qui s'adaptent. Et ça, c'est ça, je dirais, le plus intéressant dans tout ça, tout ce qui est raconté. Je crois que bon, il y a de grandes descriptions de ce qu'elle vit comme mère qui allait, de grandes descriptions de ce qu'elle vit adolescente, de ses expériences de drogue, mais au-delà de tout ça, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, ce qui m'a touchée, c'est surtout de voir comment chacun réagit face à l'inconnu. Il arrive une crise demain, il arrive une guerre, il arrive un problème, comment tu réagis? Et puis, autour de nous, on en voit là, des pays en guerre, des catastrophes, des tremblements de terre.
C'est pas ça qui manque.
Voilà. Alors, il y a ceux qui veulent protéger leurs biens à eux, et même que Nils va se mettre à faire une clôture pour au cas où y arriveraient les gens de la ville, là. Alors ils regardent ça puis ils disent faut protéger nos biens.
Mm-hmm. Et il y en a d'autres qui sont prêtes à mourir pour les autres.
Voilà. Et sa sœur qui est égoïste, elle va cacher de la nourriture pour que ça reste juste à eux. Enfin, bref, on voit comme ça. Et on voit les enfants qui n'ont jamais connu rien d'autre, qu'eux autres, ben, ils jouent dans cette espèce de gadou dehors, puis bon, ben, ils s'adaptent. Il n'y a vraiment pas de problème. Et elle dit, lentement, j'apprends à m'habituer à toutes les pertes. Imaginez ne plus franchir le seuil de ma maison, ne plus rentrer chez moi. Ben, je pense que ça dit tout. Effectivement, dans sa tête, elle rêve, là, parce qu'elle s'imagine, je rentre, il y a les bottes ici qui sont placées, là, il y a le comptoir, pour essayer de ne pas oublier cette maison-là. Puis un peu plus loin, elle va dire, est-ce donc ainsi que vivent les exilés? Ainsi qu'ont vécu mon père et tous ceux qui ont perdu quelque chose, quelqu'un de précieux? Cherchent-ils à renouer avec ce qu'ils ont perdu dans leurs rêves? Essaient-ils de franchir le seuil de leur maison éternellement, comme pour enfin retrouver une continuité? Alors oui, son père est un exilé du Liban qui est parti pendant les guerres.
Dans la vraie vie? Bon,
dans l'histoire.
D'accord.
Dans l'histoire. On est
le père de Iona, là. Oui.
Oui, c'est ça. Alors donc, c'est pour ça qu'elle dit comme mon père, parce que lui, c'est un Libanais. Et puis bon, ben effectivement, les migrants qui sont au chemin Roxham, là, dont on parle, puis bon, ceux qui veulent sortir de l'Ukraine pour sauver leur vie, ils ne reverront jamais leur maison, ils ne reverront jamais ce qu'ils étaient. C'est une perte, c'est un deuil. Et je dirais que c'est ça le thème principal qu'il faut retenir, je pense, de tout ça. C'est comment tu vis à travers tout ça. Elle a une écriture très fine, très féminine, c'est intime. C'est narré, tout est narré par Iona. Il y a des très belles images. Entre autres, parmi les descriptions, il y en a une où elle parle du mois d'octobre. Et effectivement, moi, je trouve toujours que l'automne, c'est comme une espèce de saison morte. Et elle va dire, le mois d'octobre me parvient telle une petite mort. On me vola la lumière, la verdure, la couleur, l'odorat. Effectivement, il y a moins de lumière, le soir tombe plus vite, il n'y a plus rien qui pousse. Donc, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur, tout est gris. Et elle va revivre cet automne-là dans le séjour qu'elle va faire dans le Nord, mais elle le vit beaucoup plus intensément parce que cette mort symbolique de la nature est tellement près de leur mort. Aux autres, ils sont affamés, hein, ils ne mangent pas leur faim. Alors, je trouve que l'idée de la mort est très intéressante. Et bien sûr, cette famille va se fissurer parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et c'est dans le drame, je pense, qu'on voit comment est-ce qu'on réagit et que le caractère ressort.
Alors, est-ce que c'est un roman anxiogène?
Ça peut être... Oui, je pense que des jeunes, j'ai repensé à ça, comment les adolescents vont réagir. D'abord, je me suis dit que les garçons aimeraient peut-être moins ça parce que c'est très féminin comme écriture, puis il y a beaucoup de questions de la mère, puis de l'allaitement, puis de la relation avec les enfants. Ensuite, il y a cette anxiété-là, effectivement, qui présente, parce qu'il y a une question de survie, puis il y a la planète qui est là. C'est une crise climatique, d'abord et avant tout. Et là, ben, il essaie de faire un potager. C'est impossible, il n'y a pas de soleil. Alors, il n'y a rien qui pousse. Donc, leurs réserves s'amenuisent et là, l'angoisse, la panique et le caractère sort. Là. Puis, à un moment donné, il n'y a plus d'électricité, donc il n'y a plus d'Internet. Il y a une génératrice, mais à un moment donné, il n'y a plus d'essence. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a vécues à petite dose, par exemple, pendant la crise du verglas ou encore pendant la crise de la COVID-19, où des gens réagissaient plus ou moins bien. Mm-hmm. Et je pense que ça l'a touchée quand elle a écrit ça.
Et ça donne un bon roman?
Ça donne un roman qui est parfois long. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, des répétitions, et je me suis dit que des jeunes de 16 ans vont peut-être trouver ça un peu long. Mais au final, effectivement, c'est une très belle réflexion sur comment tu réagis face à ce que tu ne connais pas, qui t'arrive comme ça, et qui est triste. C'est pas heureux, là. C'est pas une belle surprise.
Non.
Et puis, bon, puis t'es en mode survie. Alors, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle se met tout le temps dans la peau de l'adolescent qui est le fils de son ami qui est avec eux, qui souffre comme les adolescents ont beaucoup souffert pendant la COVID-19 aussi, et que lui, il a besoin de partir. Et c'est ce qu'elle décrit, comment elle s'ennuie du temps où elle était jeune et adolescente. Et je termine avec ça. Je me replonge dans ma tête de 18 ans. Le jeu des bouches et des ventres, ce besoin criant d'amplitude et de me perdre me revient incisif et vole comme une brûlure, désir brutal de transgression des limites et de purge radicale qui fait courir la sève de la plante des pieds jusqu'à la pulpe des doigts en passant par le cœur, irrigué d'une eau nouvelle. Alors c'est ce qu'elle vit là et elle se met dans la peau de l'adolescent qui vit ça aussi. Donc ça, je pense que ça va toucher les jeunes et toutes les expériences de drogue qu'elle vit dans son adolescence aussi, qui sont pas toujours heureuses. Alors,
le fil du vivant, avec une belle jaquette, on dirait une ballerine.
Oui, parce que cette fille-là, Iona, était ballerine et musicienne. Donc, c'est une artiste. C'est pour ça qu'elle prend pas ça du tout de la même façon que son mari, qui est un cartographe. Donc, il est très, conscient de la réalité, puis il est dans le concret.
Un esprit alors, plus mathématique.
Oui, c'est ça.
Anne-Marie, merci. Ça n'a pas paru votre voix de fille grippée, là. Je pense que le fil du vivant vous a mis de l'énergie dans votre moteur.
Je vais me soigner cette semaine.
Aux éditions Alto, oui, soignez-vous malgré tout. 229 pages. Une lecture que vous avez appréciée malgré quelques longueurs.
Oui, c'est ça.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.